France Musique. Musicopolis. Le 25 mai 1905, Paris, rue Saint-Jacques. Le 25 mai 1905, c'est le jour du premier concert entièrement consacré aux œuvres d'un jeune musicien de 33 ans, Déodat de Séverac. La salle de la Schola Cantorum, rue Saint-Jacques, n'est pas très grande, mais de nombreux musiciens sont là et quelques critiques. Tous relèvent la qualité de la musique, et notamment de la partition la plus récente du compositeur, en Languedoc. Joué pour la première fois dans son intégralité par l'un des plus grands pianistes de l'époque, Ricardo Vignès. Pour certains des amis de Déodat de Séverac, cette œuvre n'est pas une nouveauté, puisqu'elle a déjà été entendue par petits morceaux. Mais pour les critiques, c'est une découverte. Le Mercure musical du 15 juin 1905 est le premier à réagir par la plume de Louis Lalois. Après avoir détaillé les différentes pièces jouées au cours du concert, Lalois en arrive à la suite en Languedoc. Exécuté, écrit-il, par M. Vignès avec l'ardeur intelligente et la virtuosité émue qu'on lui connaît. Louis Lalois, dans son article du 15 juin 1905, remarque que la suite en Languedoc de Déodat de Séverac, la plus récente de ses œuvres, est aussi la plus accomplie. Le style est beaucoup plus net et plus personnel, écrit Lalois, que dans le chant de la terre. Et les souvenirs du chant grégorien, si cher à la Schola, ont fait place ici à l'imitation directe des voix de la nature. Déodat de Séverac appartient à cette race élue de musiciens qui savent écouter et traduire en notes le murmure des eaux, le bruissement des feuilles, les soupirs du crépuscule et les résonances des lointains angélus. De là, les couleurs si fraîches de ces tableaux pris sur le vif, vers le mas en fête, sur l'étang le soir, à cheval dans la prairie, coin de cimetière au printemps, le jour de la foire au mas. Ans en 1905, ce n'est pas là un âge très précoce pour un compositeur au début du XXe siècle. Et en effet, même si Déodat de Séverac a composé dès l'âge de 14 ans, il a suivi un chemin plutôt indirect pour entrer dans la carrière. Je vous le résume. Né dans la Haute-Garonne, à Saint-Félix-de-Caraman, qui s'appelle aujourd'hui Saint-Félix-Lauragais, Sévrac a étudié plusieurs instruments, l'orgue et le piano avec l'organiste de son village, puis le hautbois et le cornet à piston à l'abbaye-école de Sorèz dans le Tarn, où il se perfectionne aussi en piano. Pour suivre la volonté de son père, il entre ensuite à l'université de Toulouse en droit et lettres. Puis en 1893, à 21 ans, il va suivre au conservatoire de Toulouse les classes de solfège et d'harmonie. Enfin, après avoir terminé à Toulouse en juin 96, à 24 ans, il monte à Paris, où il s'inscrit à la toute nouvelle École de chant liturgique et de musique religieuse, qui va bientôt s'appeler tout simplement Schola Cantorum. À la Schola Cantorum, toute nouvelle école de musique, Déodat de Sévrac va prendre des leçons de composition avec Vincent Dindy, puis avec Albéric Magnard. Il va se perfectionner en piano avec Isaac Albenitz. Il évoquera quelques années plus tard sa génération de compositeurs un peu trop façonnée par les méthodes importées d'outre-Rhin. De là, écrit-il, son étang de quatuors, de sonates, de symphonies, longues comme un jour sans vin. Je suis tombé dans ce travers comme les autres, mais j'essaye de me ressaisir et d'aller vers la clarté et la simplicité qui sont vraiment de chez nous. Les études à la Schola sont longues et Sévrac va y rester pendant 10 ans. Il soutiendra sa thèse seulement en 1907 à 35 ans. Mais il aura déjà eu, bien avant, l'occasion de faire entendre sa musique, notamment quelques mélodies, dans des salons comme celui de la Princesse de Polignac ou lors de séances de la Société nationale de musique. Sa première œuvre publiée, en 1898, est un Ave Verum Corpus. Alors que son tableau symphonique avec chœur de femme dans la coulisse, Nymphe au crépuscule, achevé en 1901, ne sera pas publié. Déodat de Sévrac écrit à sa mère à la veille du concert où ses nymphes au crépuscule sont créées. À la répétition, une foule de musiciens étaient venus qui m'ont fortement congratulé, Debussy entre autres. Comme Debussy, Sévrac fait partie des membres de la Société nationale de musique, qui offre un débouché pour les œuvres des jeunes compositeurs qui ne peuvent pas se faire jouer à l'opéra ou dans les grandes sociétés symphoniques. On y crée plusieurs de ses mélodies et sa suite pour orgue. Et puis, une autre institution fait aussi honneur à ses œuvres. Il s'agit de la Libre Esthétique à Bruxelles. C'est là qu'est donnée pour la première fois la suite pour piano « Le chant de la terre » achevée en 1900. Après la création du « Chant de la terre » à Bruxelles, l'œuvre est donnée à Paris à la Société nationale de musique par Blanche Selva, toute jeune pianiste qui, peu de temps avant, à l'âge de 17 ans, a été nommée professeure de piano à la Scola Cantorum. Blanche Selva va désormais défendre la musique de Sévrac, tout comme le fait Ricardo Vignès, et tous les deux vont se relayer pour les créations à Bruxelles ou à Paris. Justement, c'est à Bruxelles que Ricardo Vignès va donner la prochaine nouveauté, deux morceaux d'une future suite qui devrait s'appeler « Loin des villes ». Sévrac lui écrit au début de 1903. « Cher, je vous envoie le numéro 2 copié. J'espère que j'aurai écrit de façon à ne pas vous torturer les yeux. Demain matin, je vous enverrai l'autre morceau, le numéro 4. Merci encore, avec tout le travail que vous avez, d'avoir voulu jouer cette modeste pièce. Vous êtes un ami aussi aimable qu'un artiste rare et éthérisant. » En exergue de ce morceau, Sévrac a écrit quelques mots. « Cette nuit, ô bien-aimée, nous irons rêver sur le lac dans la vieille barque. » Thank you. Théodat de Sévrac a intitulé sa suite pour piano « Loin des villes ». Ce qui n'étonne pas d'un musicien né justement loin des villes et qui ne se retrouve pas totalement dans la vie citadine. Si Paris lui offre beaucoup de débouchés pour sa musique, en revanche, l'inspiration, elle, lui vient de son pays natal, de la vue sur les Pyrénées, de la douceur de l'air, de la convivialité des gens de sa région. Pour l'autre numéro qui va être donné à Bruxelles en mars 1903, par Vignès, Sévrac a écrit en exergue « Demain, lève-toi avant l'aube, nous suivrons les longs troupeaux tintinabulants. » Un an après la première audition des deux mouvements de la suite qu'il a appelée « Loin des villes », Déodat de Sévrac confie deux nouveaux numéros à Ricardo Vignès, toujours pour création à Bruxelles, à la Libre Esthétique. Il lui écrit que le poète Léon-Paul Fargue, qui fait partie du petit groupe d'amis connu sous le nom d'Apache, a opiné pour les titres « Coin de cimetière » et « À cheval dans la prairie ». En novembre 1904, alors qu'il est dans sa ville de Saint-Félix, dans la Haute-Garonne, Déodat de Sévrac écrit à Ricardo Vignès. « Cher ami, je mets à la poste le dernier morceau de ma suite que je débaptise si vous n'y voyez pas d'inconvénient. loin des villes me paraît beaucoup trop général, tandis que j'ai essayé de donner à la musique la couleur spéciale de notre Midi. Elle s'appellera donc désormais Occitanie ou en Languedoc. J'espère que vous avez reçu le premier morceau. Vous avez donc maintenant toute la suite de 1 à 5. Je vous remercie de vouloir interpréter cette petite œuvre à laquelle vous insufflerez la verve qui lui manque peut-être un peu, hélas. Veuillez offrir mes respects à Madame votre mère. Souvenir à Ravel, Sordes et autres sympathiques apaches. Je suis encore à la campagne pour quelque temps et je profite de cela pour élaborer un poème symphonique dont le sujet m'amuse. Donnez-moi de vos nouvelles. Après avoir créé les morceaux de la suite de Déodat de Sévrac par épisode à Bruxelles, suite appelée d'abord Loin des villes puis rebaptisée en Languedoc, Ricardo Vignes donne donc l'intégralité des 5 morceaux à la Schola Cantorum. Un concert que Sévrac donne parce qu'il pense pouvoir en retirer un peu d'argent, alors qu'il a des soucis matériels, plus que pour se mettre en avant et promouvoir sa musique. Heureusement, le deuxième but est atteint néanmoins, et la critique est élogieuse. Jean Marnold se réjouit que si peu de temps après le Péléas de Debussy, on ait dans notre musique un Ravel et un Sévrac. Dans son feuilleton du journal Le Temps, Pierre Laloy écrit de Sévrac « Son œuvre sort de la nature. Elle est pleine de l'odeur du terroir. On y respire le parfum du sol. Les courses sous le soleil, les haltes à l'ombre, les cloches discrètes tintant dans l'air du soir, les heures de repos et de rêve à la fin du jour, les labeurs des champs, les divertissements après le travail, les peines et les joies de la vie rustique, sa musique exprime toutes ces choses. L'âme des paysages et celle des hommes, l'âme du pays natal est en elle. » Enfin, laissons le dernier mot à Debussy. Sévrac fait de la musique qui sent bon, et l'on y respire à plein cœur. Le jour de la foire aux masses, dernière pièce de la suite en Languedoc de Déodat de Sévrac, jouée par Aldo Ciccolini. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Françoise Monteil pour les recherches et le site, Claire Lagarde pour la réalisation et Yves Lehorse pour le mixage.
À réécouter sur francemusique.fr.